C'est un plaisir d'être ici dans le centre Marriott parmi vous et de voir autant de personnes. Et aussi de savoir qu'à travers le monde, il y a des dizaines de milliers de personnes et de jeunes comme vous rassemblés, peut-être même des centaines de milliers rassemblés dans des bâtiments. Nous étions en Argentine, ma femme et moi, la semaine dernière, et nous savons qu'ils vont voir cette soirée en différé. Il y a des gens partout dans le monde qui témoignent de leur foi. Au mois d'août 2005, le président Hinckley a invité les membres de l'Église du monde entier et les amis de partout à lire le livre de Mormon. Il a conclu cette exhortation par une promesse. Une mesure supplémentaire de l'Esprit du Seigneur, une résolution plus forte de marcher dans l'obéissance à ses commandements et un témoignage plus fort de l'existence réelle du Fils de Dieu entreront dans votre vie et dans votre foyer. La réponse à cet appel prophétique a été immédiate. Des quatre coins de la terre, les gens de partout se sont mis à lire le livre de Mormon chez eux, en avion, pendant le déjeuner, au lever le matin avant de se coucher le soir. Il semble que plus de gens ont lu le livre de Mormon pendant le deuxième semestre de 2005 qu'à toute autre époque de l'histoire. Il y a quelques mois, un de mes amis se trouvait en avion entre New York et Salt Lake City. Il a constaté en descendant l'allée centrale que beaucoup lisaient le livre. Arrivé à la moitié de son parcours, il a remarqué deux personnes en train de lire, chacune d'un côté de l'allée. Il s'est arrêté pour voir où elles en étaient. Il a souri en découvrant qu'elles en étaient à la même page. Richard G. Scott et moi étions en Afrique au mois de novembre. Lors d'une veillée, un dimanche soir, au centre de pieux d'Accra, au Ghana, plus de 2000 membres étaient présents et Frère Scott a demandé combien lisaient le livre de Mormon. Presque tout le monde a levé la main. 10 jours plus tard, à Dar es Salaam, en Tanzanie, j'ai rencontré 200 membres et amis au cours d'une veillée. J'ai posé la même question. Environ 2/3 des personnes ont levé la main. Après la réunion, j'ai appris qu'une grande partie du tiers restant était composée d'amis de l'Église. Maintenant, levez la main si vous avez lu le livre de Mormon en 2005. Alors que je regarde l'Assemblée, tout le monde, ou presque, l'a lu. Je pense que c'est vrai aussi bien à Los Angeles qu'à New York, à Francfort, à São Paulo, au Mexique et dans de nombreuses autres villes où vous êtes assemblés ce soir. Quelle réponse extraordinaire à l'exhortation du prophète. Moi aussi, j'ai accepté ce défi et j'ai lu le livre. J'ai ressenti l'accomplissement de la promesse faite par le président Hinckley. J'ai ressenti une mesure supplémentaire de l'Esprit du Seigneur. Un témoignage plus fort et une résolution plus forte de marcher à la manière du Seigneur. J'aimerais partager avec vous une découverte que j'ai faite en lisant le livre de Mormon l'année dernière. Je savais depuis un certain temps que les chapitres 5 et 32 d'Alma abordaient le même sujet, c'est-à-dire la foi. Jusqu'à ma lecture de l'an passé, je n'avais pas remarqué à quel point les deux discours étaient adaptés à leur auditoire respectif. Les personnes qui écoutaient Alma au chapitre 5 étaient des membres de l'église à Zarahemla. Cette ville était le siège de l'église, et on peut penser que les membres connaissaient la doctrine. Au contraire, les auditeurs du chapitre 32 étaient des Oramites pauvres qui avaient été chassés de leur synagogue par les riches. Dans cette région du pays, ce peuple s'était égaré de la vérité. Bien que pauvres et humbles, et qu'ils aient le désir d'apprendre, ils étaient semblables à des amis de l'Église qui ont besoin qu'on leur enseigne les bases de l'Évangile. Au chapitre 5, le sermon que fait Alma aux membres de Zarahemla est profond et complexe. La série de questions qu'il pose laisse penser que la doctrine et l'expérience du Saint-Esprit sont connues. Autrement, les questions ont peu de sens et la réponse est difficile à trouver. Le but des questions est d'inciter les membres à reconsidérer et à renouveler leur foi au Seigneur et en son pouvoir rédempteur. Écoutez les questions. Êtes-vous né spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Faites-vous preuve de foi en la rédemption de celui qui vous a créé? Regardez-vous vers l'avenir avec l'œil de la foi et voyez-vous ce corps mortel ressuscité à l'immortalité pour vous tenir devant Dieu, pour être jugé selon les actes qui ont été accomplis dans le corps mortel. Pour apprécier ces questions et y répondre, il faut connaître le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et y croire. Il faut avoir connu la purification par l'eau et le feu. Il faut avoir goûté aux fruits du Saint-Esprit et croire littéralement en la résurrection du corps physique. Ce n'est pas un discours pour des néophytes, mais pour des membres de l'Église avertis. Au contraire, Alma enseigne aux investigateurs zoramites les rudiments de la foi, comment la foi en Christ commence, puis croit. Le sermon du chapitre 32 est très clair sur la manière d'acquérir la foi, un processus que les missionnaires utilisent aujourd'hui pour amener les amis de l'Église à acquérir un témoignage. Ce processus commence avec le désir de croire. Il faut alors planter la graine, la parole de Dieu, dans son cœur, en étudiant les Écritures, en écoutant les paroles des prophètes, en priant, et en demandant la confirmation des vérités de l'Évangile, en assistant au culte et en obéissant aux commandements. Il arrivera alors qu'elle gonflera dans le cœur, que l'on éprouvera un épanouissement de l'âme et de la chaleur dans le cœur. C'est là le début d'un témoignage. La graine est bonne. Toutes les personnes qui en ont le désir sincère peuvent obtenir un témoignage en suivant les enseignements d'Alma au chapitre 32. Après avoir expliqué le processus de naissance de la foi, Alma pose encore une question au chapitre 32. Lorsque vous avez goûté cette lumière, votre connaissance est-elle parfaite? La réponse est non. Le processus n'a fait que commencer. La graine a levé, mais elle n'est encore qu'une jeune pousse. Alma explique que si l'on continue fidèlement, la jeune pousse deviendra un arbre. Quel arbre? L'arbre de vie. Cet arbre est un symbole de l'amour de Dieu pour ses enfants qui s'exprime par la condescendance et le sacrifice expiatoire de son Fils. Alma enseigne aux Zoramites que lorsque l'arbre aura pris profondément racine dans leur âme, ils se feront un festin de son fruit et n'auront ni faim ni soif. En d'autres termes, ils auront fait l'expérience d'une renaissance spirituelle, un profond changement de cœur, et l'arbre qui est enraciné profondément dans leur âme imprimera l'image de Dieu sur leur visage. Il est intéressant de noter qu'Alma enseigne aux Zoramites, dans le chapitre 32, ce qu'ils doivent faire pour répondre aux questions posées aux membres de Zarahemla au chapitre 5. C'est vraiment remarquable. Pouvez-vous imaginer Joseph Smith, alors âgé de 24 ans, ayant reçu peu d'instructions, en train de dicter un manuscrit de plusieurs centaines de pages qui souligne les doctrines fondamentales cohérentes dans chaque détail et qui adopte sa présentation de la doctrine pour répondre aux besoins de ses auditeurs? Bien plus encore, le discours d'Alma est en lien direct et s'appuie sur les visions de précédents prophètes, les rêves de Léhi et de Néphi, de l'arbre de vie dans 1 Néphi. Plus important encore, c'est que ces discours ne sont pas seulement applicables aux Néphites et aux Zoramites, mais encore aux lecteurs qui viendront des centaines et des milliers d'années plus tard. Frères et sœurs, le livre de Mormon est la parole de Dieu. Il est vrai. Joseph Smith n'en est pas l'auteur, mais le traducteur du Seigneur. Le livre a été rédigé par des prophètes il y a des siècles. Je suis reconnaissant d'avoir relu le livre de Mormon. Chaque fois, j'apprends de nouvelles choses qui témoignent à mon âme que Joseph Smith était et est le prophète du rétablissement. Bien qu'il reste encore beaucoup de choses que je ne sache pas, une chose est certaine. Le livre de Mormon et le rétablissement de l'Église font partie du rétablissement de toutes choses prédit par l'apôtre Paul, voici 2000 ans. J'aimerais ce soir paraphraser le discours d'Alma à Zarahemla. Je vous demande à vous, les jeunes adultes de l'Église en 2006, regardez-vous vers l'avenir avec l'œil de la foi? Obéissez-vous aux enseignements de l'Évangile afin de recevoir et de retenir son image sur votre visage? Savez-vous où vous en êtes dans cette vie? Et voyez-vous les implications à long terme que les décisions importantes que vous allez prendre vont induire dans les prochaines années? Je crois que la tranche d'âge de 18 à 30 ans est la période qui présente le plus de risques et l'une des plus difficiles de la vie. C'est aussi une des plus gratifiantes. Des décisions de haute importance vont être prises dans les prochaines années et elles auront des répercussions toute votre vie et jusque dans l'éternité. Des choix concernant l'enseignement, l'emploi, le mariage, les enfants et la fidélité dans le royaume vous attendent. Vos choix d'aujourd'hui, qu'ils soient voulus ou non, vont vous suivre pour toujours. Connaître le plan du Seigneur et particulièrement tout ce qui touche à cette vie vous aidera à prendre de sages décisions. Dans le temps qui me reste ce soir, je voudrais examiner les buts de la condition mortelle dans le plan du Seigneur et la manière dont ces buts influencent les choix importants qui se profilent. Lorsque le Père a réuni ses enfants d'esprit dans le Conseil des cieux, il a indiqué qu'il était temps de créer une terre et que ceux qui gardent leur premier état recevront davantage et que ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. Nous savons que le premier état correspond au monde des esprits et le second à celui de cette vie. Comment allions-nous recevoir davantage en gardant notre premier état tout en entrant dans la condition mortelle? Il existe au moins trois manières d'être valorisé en venant sur la terre. Tout d'abord, nous recevons un corps physique. Deuxièmement, l'expérience de la condition mortelle nous permet d'être mis à l'épreuve et d'accroître notre intelligence ou la lumière et la vérité. Enfin, nous avons l'occasion de devenir une famille éternelle dans laquelle nous établissons des relations qui apporte un supplément de gloire. Examinons chaque moyen. Le corps physique est un des grands dons de la condition mortelle. Les Écritures nous enseignent que ce corps est important non seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie éternelle. Pendant la condition mortelle, le corps peut être le temple de Dieu, en ce sens qu'il peut recevoir le Saint-Esprit. Celui qui écoute le Saint-Esprit est guidé par le royaume céleste. Le corps est si important dans les éternités que Christ a donné sa vie pour vaincre à la fois la mort physique et la mort spirituelle. En faisant cela, il a permis que chacun ressuscite. Joseph Smith a dit, « Nous sommes venus sur terre pour avoir un corps et pour le présenter pur devant Dieu dans le royaume céleste. Le grand principe du bonheur consiste à avoir un corps. » Pourquoi le corps physique est-il si important? En quoi est-il nécessaire au bonheur ici et après? Quels sont ses buts divins? Il y en a au moins trois. D'abord, le pouvoir sacré de procréer. Le corps contient le pouvoir sacré de procréer qui nous permet d'avoir des enfants et de poser les fondements d'une famille éternelle. Dans la condition mortelle, ce pouvoir est donné pour une durée limitée. Si nous sommes fidèles et suivons les commandements en relation avec son usage, ce pouvoir est rétabli dans la résurrection. Les Écritures indiquent que nous recevons une plénitude de joie dans le corps et l'esprit, quand le corps et l'esprit sont inséparablement liés. Mais une plénitude de joie nécessite plus que la résurrection. Les doctrines et alliances nous enseignent que ceux qui sont fidèles et entrent dans la nouvelle alliance éternelle du mariage accéderont au plus haut degré du royaume céleste et y recevront une plénitude de gloire et une continuation des postérités pour toujours et à jamais. C'est le mariage éternel et le pouvoir de créer la vie qui apporte ce bonheur dans la condition mortelle et une plénitude de joie dans la vie à venir. Deuxièmement, le corps physique est un instrument de l'esprit. Le président Boyd K. Packer a enseigné ce concept lors d'une émission satellite voici 3 ans. Le corps physique est nécessaire pour exprimer l'amour, la gentillesse et servir. Ces actions physiques ne bénissent pas seulement les autres, mais nous aussi. Un personnage d'esprit peut faire beaucoup de choses, mais le corps physique accroît l'éventail des actions qui peuvent être entreprises. En fait, dans une vision du monde des esprits, Joseph Smith a appris que les morts avaient considéré comme une servitude la longue absence séparant leur esprit de leur corps. En d'autres termes, des actions nous seront impossibles. Il y aura des choses que nous ne pourrons pas faire parce que notre corps nous manquera. Dans le monde des esprits, nous languissons de la résurrection et la liberté qu'il nous apporte. Troisièmement, le corps physique est un réceptacle de lumière. Les scientifiques disent que chaque objet capte la lumière. Le frère de Jared le devait le savoir. Quand il s'est exclamé, « Touche ces terres, ô Seigneur, de ton doigt, et prépare-les afin que nous ayons de la lumière pendant que nous traversons la mer. » Le Seigneur, s'adressant à Joseph Smith, le prophète, a déclaré, « Et si vous avez l'œil fixé sur ma gloire, votre corps tout entier sera rempli de lumière. » Avez-vous remarqué la lumière qui éclaire le visage des personnes qui vivent l'Évangile? Il y a 4 mois, j'étais au temple d'Accra, au Ghana. Habillés de blanc, tous les serviteurs du temple étaient ghanéens. La lumière qui émanait de leur visage était visible. Si vous vivez l'Évangile, vous recevez plus de lumière grâce au corps physique qui en est le réceptacle. Enfin, le Seigneur nous dit que si nous vivons en accord avec la loi céleste, alors quand viendra la résurrection, notre corps recevra cette gloire par laquelle votre corps sera vivifié. Vous qui êtes vivifié par une part de la gloire céleste, vous en recevrez alors une plénitude. En d'autres termes, si nous nous efforçons de vivre l'Évangile, notre corps sera vivifié par une part de la lumière céleste dans cette vie, et il recevra une plénitude de la gloire céleste à la résurrection. Frères et sœurs, comme l'a dit Joseph Smith, le prophète, le grand principe du bonheur consiste à avoir un corps. Il contient le pouvoir sacré de la vie, il est un instrument de l'esprit, et en tant que temple de Dieu, il augmente la capacité de lumière et de vérité en chacun de nous. Il est important de respecter son corps en portant une tenue décente, en se gardant de toute action immorale et en le gardant pur et sans tache. Il faut mentionner un autre aspect du corps physique, c'est la force de ce corps dans la durée. La courbe de la force physique tout au long de la vie et sa relation avec la croissance spirituelle donne une perspective pour faire des choix. Le tableau à l'écran est établi d'après des données issues d'études physiologiques afin de montrer la force musculaire du corps humain de la naissance à la vieillesse. L'axe horizontal représente l'âge, de la naissance jusqu'à notre mort. L'axe vertical représente la mesure de la force musculaire. À la naissance, la ligne est proche du bas du tableau. La force d'un bébé est relativement petite par rapport à celle d'un adulte. La courbe monte rapidement en fonction du développement du corps humain de l'enfance à l'âge adulte. La force du corps physique trouve son apogée vers l'âge de 30 ans. De nombreuses preuves montrent que la force musculaire de l'homme et de la femme entame un long déclin après 30 ans. De même que le corps se détériore peu à peu jusqu'à ce que la mort survienne. Où vous situez-vous sur ce tableau? Vous êtes proche du sommet de la courbe. La plupart d'entre vous ici ce soir avez moins de 30 ans, donc vous n'avez connu qu'un accroissement de force physique. et vous n'avez que l'expérience de vous sentir de plus en plus fort. Mais patientez. Il ne se passera pas beaucoup d'années que vous ne franchissiez le cap et basculiez vers une courbe descendante. Que ressentirez-vous alors? Est-il donc surprenant que de nombreuses décisions importantes soient prises dans cette tranche d'âge de 18 à 30 ans? Vous êtes proche du point culminant de votre force. Vous vous sentez indestructible. La mort est un événement très lointain qui n'arrivera peut-être jamais. D'un point de vue physique, avoir une vingtaine d'années est un moment particulièrement important pour se marier, avoir des enfants parce que vous êtes en bonne santé et vous avez l'énergie nécessaire pour élever votre famille dans les décennies qui suivent. Si vous regardez le graphique, vous pouvez vous demander pourquoi la courbe descend-elle si lentement? Y a-t-il des leçons à en tirer? La réponse est oui. L'esprit et l'âme apprennent de nombreuses leçons. Une des premières, c'est que vous êtes mortel alors que vous descendez. Quand j'avais votre âge, la mort ne faisait pas partie de mon univers. Comme vous, elle était si lointaine que j'y pensais à peine. Aujourd'hui, je suis bien avancé sur la courbe et je ressens les maux et les douleurs qui viennent avec la constante détérioration du corps. Maintenant, la mort occupe souvent mes pensées. J'ai appris que la vie est courte, quel que soit le nombre d'années vécues. Je comprends aussi plus complètement la nécessité d'un sauveur. Personne ne peut vaincre la mort physique et spirituelle sans sa grâce. J'ai aussi pris conscience que de nombreuses bénédictions qui arrivent plus tard proviennent de décisions prises entre 18 et 30 ans. Mes plus grandes bénédictions découlent de la décision d'épouser Sœur Bettman peu après ma mission, de terminer nos études, même si nos ressources étaient limitées, et d'écouter les murmures de l'esprit en posant les bases de notre vie future. Lorsque l'on est sur la pente descendante de la vie, les maux et les douleurs inévitables ont une raison importante. Elles aident à se dépouiller de l'homme naturel, cher au roi Benjamin, lorsque nous essayons de nous soumettre aux persuasions de l'esprit. Les maux et les peines de la vieillesse nous enseignent l'humilité, ce qui signifie la longanimité, l'importance de la patience, l'appréciation des qualités comme la gentillesse et l'amour, et aident à apprendre la modération en toutes choses. Ce sont en fait des attributs divins. Pour les personnes qui sont fidèles, la lente détérioration du corps est un instrument qui sert à raffiner l'esprit. Prendre soin de son corps de bonne heure accroît la longévité. C'est important parce qu'on apprend de nombreuses leçons en vieillissant. Un paquet de cigarettes par jour raccourcit la vie de 10 à 30 à 13 ans. Notez bien la diminution de force sur le graphique. Les drogues la raccourcissent encore plus. Il n'est pas étonnant que le Seigneur donne une loi de santé dans chaque dispensation. Mes jeunes amis, l'expiation du Seigneur et sa résurrection confirment l'importance du corps. Puissions-nous comprendre et respecter les rôles importants qu'il joue dans la condition mortelle et dans l'éternité. Le deuxième grand objectif dans l'éternité est d'acquérir l'intelligence, la lumière et la vérité. Le dictionnaire définit l'intelligence comme étant la capacité d'acquérir et d'appliquer la connaissance. La définition qu'en donne le Seigneur comporte un élément supplémentaire. Ce n'est pas seulement la capacité d'acquérir et d'appliquer la connaissance, mais la sagesse de l'utiliser d'une manière juste. Selon les paroles du Seigneur, la lumière et la vérité délaissent le malin. La lumière est un attribut de la divinité. L'apôtre Jean déclare que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Jésus avait dit qu'il était la lumière du monde. L'Évangile est un message de lumière. Un but essentiel de la condition mortelle pour les enfants de Dieu est d'acquérir la lumière, c'est-à-dire devenir plus semblable à lui. Dans cette vie, nous devons être mis à l'épreuve par l'obéissance à ses commandements. La récompense en est davantage de gloire ou de lumière. Doctrine et Alliance précise, ce qui est de Dieu est lumière. Et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Le Seigneur a donné deux sources de lumière spirituelle. La première est la lumière du Christ. Cette lumière est donnée à chaque personne afin qu'elle discerne le bien du mal. La deuxième source est le don du Saint-Esprit qui est conféré aux membres de l'Église. Le Saint-Esprit a de nombreux dons qui nous éclairent et nous fortifient, particulièrement dans notre témoignage de Jésus-Christ, mais aussi dans d'autres choses. Le tableau représente trois trajectoires spirituelles que l'on peut suivre dans cette vie. La courbe supérieure mène au royaume céleste. Lorsque nous l'avons déjà vu, les gens qui suivent cette trajectoire reçoivent de plus en plus de lumière au long de leur vie. C'est parce qu'ils sont sages, ont reçu la vérité et ont pris l'Esprit Saint pour guide. Ce sont ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus, ont cru en son nom et ont été baptisés, reçoivent l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Ce sont ceux qui ont reçu de sa plénitude et de sa gloire. Ces personnes apprennent à la fois par le Saint-Esprit et par la lumière du Christ. Remarquez que la courbe céleste croît rapidement pour les jeunes membres de l'Église. Le baptême et les murmures du Saint-Esprit pendant quelques années peuvent provoquer un apport notable de lumière sur une personne. La deuxième courbe mène au royaume terrestre. Cette courbe montre également une progression spirituelle, mais cette trajectoire s'arrête brutalement. Tout au long de cette courbe intermédiaire, les hommes et les femmes accèdent à la lumière du Christ et apprennent par elle, mais le Saint-Esprit est absent. Ce sont les hommes honorables de la terre qui ont été aveuglés par la fourberie des hommes. Ils reçoivent de sa gloire, mais pas de sa plénitude. La troisième trajectoire, celle du bas, mène au royaume céleste. Les personnes qui empruntent ces trajectoires rejettent la lumière du Christ et le Saint-Esprit. Ils trichent, volent, commettent l'adultère et aiment mentir. Même s'ils reçoivent une certaine gloire à la résurrection, ces personnes peuvent perdre la lumière au cours de la condition mortelle. Ce sont les paroles de Paul. Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et ne réagissent pas au murmure de l'esprit. Le graphique suivant explore les effets du péché. Supposez qu'une personne soit sur la trajectoire du royaume céleste et commette un péché. L'effet produit est une perte de lumière. S'adonner au mal fait décroître la courbe à mesure que l'esprit se retire. Est-il possible de retrouver cette trajectoire supérieure? Oui, on peut y revenir par le processus de la foi et du repentir. Supposez qu'une personne vole le portefeuille d'une autre. Que faut-il faire pour renverser le cours de la trajectoire et remonter vers le chemin plus élevé? Reconnaître le péché, avoir un sentiment de remords, demander pardon à la personne et à Dieu, exprimer du regret, rapporter le portefeuille et se garder de commettre d'autres péchés aidera à retourner vers cette trajectoire supérieure. Le temps d'épreuve pourra être long, mais il est possible d'enlever les effets du péché grâce à la foi dans l'expiation du Seigneur. Prenons maintenant un autre exemple. Supposez qu'un jeune homme et une jeune fille perdent leur vertu dans un acte de fornication. La perte de lumière sera plus importante que lors du vol du portefeuille. Ces jeunes personnes peuvent-elles revenir sur le chemin qui mène au royaume céleste? Oui, c'est possible, mais comment y parvenir? Comment peuvent-ils être purifiés? Le jeune homme ne peut redonner sa vertu à la jeune fille, ni la jeune fille au jeune homme. La seule personne qui puisse renouveler cette vertu, c'est le Seigneur. Il est le seul ayant la capacité de rétablir la vertu et rendre ces jeunes gens purs à nouveau. Quelles en sont les conditions? Il est évident que le pardon mutuel et ne plus recommencer ne suffisent pas. Ils doivent établir une relation avec le Seigneur en commençant par la confession auprès de leur évêque. Ils doivent chercher le pardon du Seigneur et gagner sa confiance. Cela demandera du temps, de la foi et des efforts de leur part pour être guéris. Heureusement, le Saint-Esprit reviendra et les guidera à nouveau vers le chemin élevé lorsqu'ils bénéficieront des fruits de l'expiation grâce à leur foi et à leur diligence à garder les commandements. Frères et sœurs, il est important de rester sur le chemin du royaume céleste. Respectez votre corps, évitez les péchés, et la lumière supplémentaire que vous recevez dans la condition mortelle restera avec vous et sera un avantage dans le monde à venir. Le troisième grand objectif de la condition mortelle est de se marier et de commencer sa propre famille éternelle. Le président Hinckley a déclaré que rien n'est plus précieux que sa propre famille. Lors d'une récente diffusion mondiale sur la famille, frère Tom Perry a cité le guide de la famille qui précise, et je cite, « La famille est l'unité de base de l'Église et la cellule la plus importante pour le temps et l'éternité. » Joseph Smith a enseigné que si un homme et une femme ne contractent pas une alliance éternelle et ne sont pas mariés pour l'éternité par le pouvoir et l'autorité de la Sainte Prêtrise pendant qu'ils sont dans cette épreuve, ils cesseront de s'accroître quand ils mourront, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'enfants après la résurrection. La famille, déclaration au monde, précise que le mariage entre un homme et une femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Pourquoi le mariage et la famille sont-ils si importants? Lors d'une récente diffusion par satellite, Frère Bednar a donné deux raisons doctrinales. La première est que les genres masculins et féminins des esprits se complètent et se perfectionnent mutuellement. Et donc, l'homme et la femme doivent progresser ensemble vers l'exaltation. La deuxième raison est que Pierre a dit, nous sommes donc héritiers de la vie éternelle. Et de même, selon le plan divin, l'homme et la femme sont nécessaires pour amener des enfants dans la condition mortelle et leur donner le meilleur environnement pour les élever et les nourrir. L'homme et la femme se complètent physiquement, spirituellement, mentalement et émotionnellement. Nos points forts sont différents, et un mariage juste est un partenariat dans lequel la croissance spirituelle trouve un tremplin grâce à ces différences. La famille est le cadre idéal pour élever des enfants. Le père et la mère ont un rôle de modèle important à jouer. L'estime de soi et la personnalité des enfants sont modelées par l'amour que leurs parents se témoignent et leur donnent. Le foyer et la famille sont les endroits où les enfants apprennent ce qu'est l'amour, la vertu, l'honnêteté et à être de bons citoyens. Le foyer est le lieu où les enfants apprennent le respect des autres. En d'autres termes, la famille est l'organisation idéale pour la croissance spirituelle à la fois des parents et des enfants. La vision du monde sur le mariage et la famille est différente de la nôtre. En règle générale, ils considèrent le mariage comme une association temporale. Pour certains, le but est essentiellement un plaisir et une satisfaction personnelle. Lorsque des difficultés surviennent, les motivations pour maintenir l'association diminuent et la relation se termine souvent ici. De plus en plus d'adultes choisissent de ne pas se marier, mais de vivre ensemble sans lien formel. Il est inutile de dire que ces associations durent peu. Le dernier tableau illustre les différences qui existent entre pas de mariage, mariage civil et mariage pour le temps et pour l'éternité. La figure A montre l'association sans contrat d'un homme et d'une femme. Les deux personnes vivent ensemble, mais ont une tendance individualiste. Les promesses faites sont limitées et aucun lien formel n'est établi entre eux. La satisfaction personnelle semble être le seul objectif. Parce qu'il n'existe pas de contrat, les enfants nés de ce mariage ou de ce ménage, pardon, ont peu de sécurité. La relation est fragile et la durée en est presque toujours courte. La figure B montre un mariage civil. La ligne et les flèches illustrent les promesses passées entre l'homme et la femme dans le contrat qu'est le mariage. Ils ont promis de prendre soin l'un de l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare. Le contrat est reconnu par les autorités civiles. Les enfants ont une meilleure sécurité du fait de l'intention des parents et de la promesse faite. Malheureusement, de plus en plus de mariages civils s'écroulent parce que les gens ne tiennent pas leurs promesses. Dans de nombreux cas, la rupture des promesses laisse les femmes, les enfants et les hommes sans ressources. La figure C montre un mariage pour le temps et pour l'éternité. Cette relation est établie par une alliance sacrée entre l'homme, la femme et le Seigneur. La femme fait alliance avec l'homme et l'homme avec la femme. Et les deux font alliance avec le Seigneur. Les flèches montrent les alliances faites. L'homme promet à la femme qu'il lui fera honneur, qu'il prendra soin d'elle et que personne ne pourra s'immiscer entre eux. Personne, cela signifie père, mère, ami et certainement pas une autre femme. L'homme promet au Seigneur qu'il vivra l'Évangile et accordera à la femme tout le respect qu'elle mérite. Des promesses semblables sont faites à l'homme et au Seigneur par la femme. Puis le Seigneur accorde des promesses merveilleuses à l'homme et la femme selon leur foi. Cette relation triangulaire est bien plus stable qu'une relation linéaire. Lorsqu'elle est comprise, cette relation potentiellement infinie augmente la confiance, rend les engagements plus profonds et donne une plus grande force au mariage. Remarquez que plus l'homme et la femme sont proches du Seigneur, plus ils sont proches l'un de l'autre. Le secret dans le mariage, c'est de vivre l'Évangile et de transformer le triangle en un cercle éternel. La famille éternelle fait partie des trois plus grands dons de la condition mortelle. Votre progression physique et spirituelle est faite pour donner le coup d'envoi de cette famille. Le Saint-Esprit est là pour vous guider dans ces décisions importantes. Mais il vous appartient de faire les choix. Il ne les fera pas pour vous. Ce n'est pas sa responsabilité et il ne vous voulera pas votre libre arbitre. Mais le Saint-Esprit apportera la paix à votre âme lorsque la bonne décision sera prise. Frères et sœurs, souvenez-vous des grands dons de la condition mortelle, le corps physique, davantage de lumière et de vérité et la famille éternelle. Ces dons sont sacrés. Puisse le Seigneur vous bénir au cours de cette magnifique étape de votre vie qui est devant vous, afin que vous les receviez tous les trois dans leur plénitude. Je prie que le Seigneur vous bénisse en cela, au nom de Jésus-Christ. Amen.